Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, peut-être que vous entendez un petit peu ma voix de meuf nerveuse qui n'est pas chez elle, parce que je suis chez un inconnu, enfin un inconnu que je connais un peu des réseaux.
Cette phrase, voilà. Je suis chez un inconnu.
Voilà, je ne sais pas où je suis. Le connais pas, je
viens. Séquestré.
Vous entendrez, c'est une voix d'homme et c'est la première fois qu'on a un garçon sur Sunshine Radio.
Bonjour.
Devinez qui c'est, je vous laisse 2 secondes.
C'est marqué dans le titre, hein, j'imagine.
Bah oui, du coup.
Bon, allez, le spoil.
Nul, voilà. Bon, Ben est sur notre podcast.
Quel plaisir d'être là.
Présente-toi, parce que du coup, je suis nulle pour présenter les gens.
Eh bah écoutez, je m'appelle Ben Never, j'ai 31 ans. T'as quel âge?
25.
Ah ouais, ça commence à faire un petit écart quand même.
Oui.
Donc, attends, mais ça veut dire que t'es de... Très mauvais en calcul mental, de 2000...
Non, pas 2000. Oh,
98.
98.
Ouais.
C'est encore un peu stylé.
Donc toi, tu ne savais pas où tu étais à la Coupe du Monde.
Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais née déjà, donc...
Bien sûr. Je m'appelle Ben Never, j'ai 31 ans, je suis YouTuber. Et on me connaît surtout parce que j'anime beaucoup de podcasts. En fait, c'est marrant parce que j'ai pas de podcast, mais j'anime des podcasts, mais qui sont filmés.
Partout, ouais.
Donc beaucoup de tables rondes où mon objectif, c'est de recréer du lien à travers les réseaux. Donc c'est donner la parole à plein de gens et avoir des discussions qu'on n'a pas forcément dans notre vie de tous les jours, parce qu'on se sent là dans un espace un peu plus sécurisant et où on peut aborder plein de sujets qui vont de devenir adulte en passant par les tabous de la sexualité, etc.
Et du coup, bah, on va aborder plein de sujets trop cool aujourd'hui. Trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire il y a 5 secondes? Ah oui, du coup, hier, quand j'ai posté ma petite story, t'as un fan club.
Non, mais c'est adorable.
T'as un fan club, c'était trop drôle. J'ai mis un garçon et là, j'avais que des... Est-ce que c'est Ben? Est-ce que c'est Ben? Je vais pleurer. Oh, les filles.
Ce qui est un peu triste parce que ça veut dire qu'il y a genre que mon nom qui peut ressortir sur un podcast où ça parlerait, quoi.
Ouais, c'est vrai. Après, il n'y a pas non plus énormément de garçons qui font le style de contenu que tu fais en France.
Ouais, c'est vrai.
Bon, du coup, je t'explique un petit peu le concept du podcast du jour. En fait, même moi, j'ai du mal à expliquer mon concept. J'avoue que
je peux essayer de l'expliquer?
Bah oui.
En gros, tes abonnés ont posé des questions sur la vie et on y répond.
Ouais, voilà. C'est un petit peu comme ça, sauf que j'ai voulu donner un nom stylé que j'ai appelé les hot takes. Parce que, en fait, à la base, un hot take, c'est genre, tu sais, un avis plus ou moins tranché que t'as sur un sujet. Par exemple, j'en sais rien, moi, être ami avec un ex, et toi, tu dis genre, non, absolument pas, on peut pas être ami avec un ex ou un truc comme ça.
Ok.
Sauf que, vu que je l'ai fait déjà avec 2 invités et à chaque fois, il n'y a pas vraiment d'avis tranché, c'est plus une discussion autour d'un sujet.
Ça ne marche pas.
Voilà, ça ne marche
ça
pas.
Ça ne marche pas.
Je peux pas changer le nom, non, ok, ça s'appelle hot takes.
Le problème, c'est que t'invites que des gens que t'aimes bien, et du coup, ils sont forcément d'accord avec toi.
Ouais, voilà, ils ne veulent pas me contredire. De toute façon, j'ai toujours raison, donc après...
En plus, voilà. Évidemment.
Non, mais du coup, j'ai un peu varié. Il y avait beaucoup de trucs intéressants et j'ai un petit peu pris de tout. Et puis, on va se lancer, hein.
Je te suis, hein.
Si t'es OK. Alors, on va commencer par le premier hot takes, qui est la citation « Tu deviens ton entourage ». Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que c'est faux?
Il y a ce truc en développement personnel qui m'avait marqué et c'était la phrase... alors, ça doit venir de quelqu'un à la base, hein. Mais qui est tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent au quotidien.
Mm-hmm.
Et donc en gros, si sur les 5 personnes t'as 3 personnes qui te tirent vers le bas de ouf, bah t'as tendance à toi-même te tirer vers le bas et vice versa. Écoute, je pense que je suis partiellement ok avec ça, parce que là c'est quoi?
Tu deviens ton entourage. En gros, bah, ton entourage fait la personne que t'es, quoi.
Ouais, mais en vrai, moi, j'y crois de ouf parce que déjà, tu choisis ton entourage par ton propre prisme. Mm-hmm. Donc, je pense que déjà, toi... Enfin, tu vois, on a tous des potes qui sont attirés que par des manipulateurs ou manipulatrices, tu vois. Ouais. Et genre, leur entourage, c'est que des gens perdus dans la vie et tout. Et soit, ça dit un truc de toi, tu vois.
Mm-hmm.
Et tu finis par devenir cette personne-là aussi. Mais parce qu'à la base, tu l'as un peu... Tu vois, t'as cherché ce truc-là et comme ça, ça va vers ta réalité et tout. Et moi, je le vois très bien. J'en avais déjà parlé, évidemment. On parle de chagrins d'amitié et tout, parce qu'on en parle très peu des chagrins d'amitié, mais ils existent et ils sont des fois même plus douloureux que des chagrins d'amour. Et moi, je me suis séparé dans ma vie plusieurs fois d'amis d'enfance, tu vois, mais parce que, bah, en fait, ça n'allait plus, quoi, et que c'était des gens qui me tiraient vers le bas de ouf. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens, je sais pas si toi t'as vécu ça aussi, mais quand tu te sépares d'une personne des fois dans ta vie, c'est là que tu te rends compte du poids que ça t'enlève et tu fais...
De ouf.
Ah ok, en fait là, je vais tellement mieux parce que je me suis séparé de cette personne, et d'un coup tu t'autorises à faire des trucs que tu t'autorisais plus à faire, etc. Et tu dis ah ok, donc finalement cette personne-là, c'était pas ce qui j'étais réellement.
Elle avait cet
impact, ouais. Exactement.
Non, c'est fou. Bah, moi du coup, c'est vrai que là, surtout cette dernière année, parce que j'ai toujours eu du mal à me... Et c'est trop drôle parce que tu disais quoi, on choisit un peu son entourage... Enfin, c'est genre un peu un choix qu'on fait. Mais moi, j'ai plus eu l'impression de jamais vraiment avoir le... Je sais pas comment dire, mais depuis mon adolescence, j'étais un petit peu... Je me sentais tellement chanceuse quand quelqu'un s'intéressait à moi. Parce que je pense que j'avais tellement pas confiance en moi que quand quelqu'un s'intéressait à moi, j'étais en mode « Oh, tu m'aimes bien
ouais. !»
Et du coup, pour moi...
c'est rarement les bonnes personnes qui vont s'intéresser à toi de prime abord avec facilité.
Ouais. Et du coup, je me retrouvais dans des amitiés genre... hyper toxique. Déjà jeune, hein, j'avais des potes qui me laissaient pas le choix. Genre des fois, il y avait 15 personnes qui arrivaient chez moi le soir et qui disaient « Ouais, on fait soirée chez Davy, parce que Davy, c'est la fille gentille qui dit ouais, toujours ouais. oui et tout. » Et pareil, dans ma vingtaine et tout. Et là, ces dernières années, j'ai commencé un peu à dire « Oh, et oh, respectez-moi !» Et du coup, j'ai eu pas mal de ruptures amicales où j'ai décidé de me séparer d'amitié. Et c'était super dur pour moi parce que j'avais vraiment... Je me suis dit « Mais comment on fait, en fait ? J'ai jamais fait ça, moi. » J'ai jamais dit à quelqu'un, bah en fait non, ça sert plus à rien, tu me freines, machin.
Et t'as l'impression que c'est toi la mauvaise personne en plus quand tu fais ouais. ça. T'as l'impression d'être trop auto-centré, tu dis ah ouais en fait mais faut accepter aussi les gens tels qu'ils sont et tout.
Oui.
Et oui, évidemment que quand t'as un pote qui va pas bien, tu vas pas faire, alors moi pas toxicité dans ma vie, toi tu reviens me voir quand t'iras bien.
Ouais non vraiment, voilà, vraiment c'est clair.
Et en même temps t'as des gens qui sont des sensu énergétiques et oui. en fait qui vraiment, il faut les sortir de ta vie
ouais,
tu vois.
Ouais,
et,
ouais.
et c'est bien d'avoir un peu d'ego, parce qu'il y a de l'ego mal placé mais il y a de l'ego aussi très bien placé.
Ouais.
Et des fois, tu sais on parle de plus en plus de santé mentale et tout et c'est trop bien. En termes de santé mentale, il faut t'entourer aussi de gens qui vont te tirer vers le haut.
C'est clair. Et du coup bah ouais j'ai vécu exactement ce que t'as dit. Une fois que je me suis séparée d'une amitié là il y a quelques années. C'était ouf, mais vraiment, et en plus je me suis dit mais c'est trop bizarre, c'était pas mon mec, c'était pas ma meuf, on n'était pas en couple, c'était juste une amie, mais c'est fou à quel point ça prenait de la place, à quel point ça me prenait de l'énergie. Et du coup pour en revenir au truc de tu deviens ton entourage, je pense que oui, de toute façon c'est inévitable
mais... non mais par contre je pense que oui et non, mais moi j'ai beaucoup de potes très très proches on est complémentaires parce que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec moi.
Ah non mais c'est clair.
Donc il y a aussi ce truc là de je pense qu'en fait on est très très influencé par notre entourage.
Ouais.
Moi, à partir du moment, tu vois, où j'ai quitté Caen et que je suis arrivé à Paris et que j'ai rencontré plein d'artistes, de youtubeurs, youtubeuses et tout, je me suis dit « Ah ok, donc ça, c'est possible ». Donc je me suis mis à y croire premier degré, tu sais, en disant « Ok ». Et finalement, je pense que ça a aidé à ce que je le fasse parce que mon entourage avait un truc de normalité, là où en fait, à Caen, tout le monde me disait « Mais
c'est quoi,
trouve un vrai métier, qui vit de ça, comment c'est possible ?» Donc je pense que ça, je suis devenu mon entourage à Paris, en tout cas dans un monde professionnel et tout. Mais par contre, tous mes potes de Caen, on est hyper différents et ça me fait beaucoup de bien et ça nous fait tous du bien parce qu'on s'apporte des choses l'autre. Et je pense que c'est ce qui évite un peu l'entre-soi aussi et d'être trop dans une espèce de bulle.
Oui, ça te sort de ce truc de... Ouais, enfin, à Paris, comme tu disais, c'est vachement... T'es entouré d'artistes, de gens qui font le même taf que toi. C'est pareil pour moi, j'ai aussi mes potes d'enfance dans le sud. Mais par exemple, tu vois, là, à Bali, puisque là, ça fait... Au moment où vous écoutez ce podcast, ça fait à peine 10 jours que je suis de retour de ma grande aventure. Et à Bali, je suis arrivée il y a 4 ans, quand j'avais 21 ans. Et je pense que c'est là où vraiment, comme tu disais, j'étais dans le sud et les gens vraiment me prenaient pour une folle, une alien quand je disais que je voulais faire YouTube, quand je disais que je voulais me lancer sur les réseaux. Quand je suis arrivée à Bali, je connaissais personne, j'étais en mode bon, c'est bon, on s'en fout, t'as aucun avis extérieur, tu peux faire ton truc et tout. Et là, ces dernières années, je me suis... Pareil, à Bali, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font ça, qui sont artistes et tout. Donc c'était trop cool.
Il y a beaucoup d'influenceurs à Bali aussi.
Énormément.
J'ai l'impression que c'est influence land un peu. Presque un peu trop,
ah,
non?
Ah oui, oui. Bah, comme tu dis, influence land, mais là, vraiment, ça pousse. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais ça pousse vraiment trop loin et ça devient too much et c'est dommage, mais bon... Voilà.
Très bon sujet pour un prochain épisode.
Oui, merci. Je vais couper, comme ça je pourrais faire genre que c'est moi qui ai eu l'idée.
Avec plaisir.
Et en fait, non, je sais plus ce que je voulais dire. Attends, mais je me perds dans ce que je dis.
C'est que t'es arrivé là-bas et là, il y avait beaucoup d'artistes, donc tu t'es dit, ah, trop bien, peut-être que c'est plus possible.
Oui, voilà.
Et redémarrer de zéro, tu disais.
C'est ça. Et bref, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal aussi à me faire vraiment des vraies amitiés à Bali. Parce que les gens s'en vont, viennent. C'est un monde complètement différent. Je saurais même pas comment l'expliquer, mais. C'est beaucoup plus dur de créer vraiment des liens amicaux forts. Et là, j'ai un peu l'impression que je repars à zéro. Je suis dans un jeu vidéo, tu sais, je vais arriver à Paris et je vais me refaire un entourage, je vais me faire des nouveaux amis et tout. Et là, je me dis, meuf, faut que tu fasses attention et que tu sois intelligente. Parce que je sais que je l'ai déjà vécu avant et je veux pas que, tu sais, avoir ce truc où j'ose pas dire non aux gens.
Déjà, t'en as conscience parce que tu le dis.
Oui.
Et puis, t'as plus 21 ans, tu vois.
Non, c'est clair.
Donc, t'en as 25. C'est vraiment, oh là là.
Dis pas genre 25 comme ça, le truc qui pique, tu sais.
Ah ouais, moi, j'ai 31, donc tu veux. Non, mais. C'est la trentaine, quoi. Mais du coup, en fait, ce qui est cool aussi, c'est d'apprendre de ses erreurs, tu vois.
Ouais.
Et ce qui est horrible, c'est quand tu recrées un même schéma continuellement et que tu comprends jamais et tout. le piège en plus, parce que souvent c'est dans l'entourage, t'as toujours ce truc un peu de dire ouais mais c'est pas ma faute, c'est parce qu'un tel croit pas en moi ou parce que ceci cela. Il y a une vraie responsabilité où moi j'ai eu des moments vraiment où je tombais en dépression, où mon entourage était dépressif, où tu vois, en fait tout était dans un truc hyper toxique, tu vois. Et à un moment j'aurais pu constamment dire ouais non mais c'est parce que mes potes nanani, ouais c'est parce que je suis pas dans le bon truc, etc. Il y a un moment tu te dis ok, est-ce que j'ai envie de m'en sortir personnellement, et le moteur il vient que de moi. Mais comme sur n'importe quel projet, tu lances un projet, le seul moteur, la seule locomotive, c'est toi, parce que personne t'attend nulle part et personne portera mieux que toi ton projet, tu vois. Donc c'est pareil, c'est de se dire cool, toi là tu sais, t'as déjà vécu ce truc là, tu sais que ça dépend 100% de toi, donc maintenant tu sais où ça en est, et puis tu vas, moi franchement j'ai, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir à Paris.
Je suis actuellement en thérapie, les gars. Ben est en train de me... Absolument réussir sa vie avant ses 30 ans.
Pour moi, il y a deux parties déjà. C'est la notion de réussir sa vie.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce qu'on peut rater sa vie ? Très intéressant, parce que ça va être le sujet d'un prochain Entre Potes. Parce que moi, ça m'intéresse de ouf, ça. Et parce que j'avais des idées très arrêtées sur ce qu'était réussir sa vie jusqu'à mes 25-26 ans. Ouais. Et puis plus ça va... tu vois, là, moi, je suis papa depuis pas longtemps. Les 30 piges, mine de rien, je sais pas, j'étais en mode, c'est qu'un chiffre. Ça m'a mis un petit coup... Enfin, pas un petit coup, et positif et négatif. Mais il y a un truc aussi où tu vois que t'as des étapes de vie différentes, tu vois. Donc je n'ai pas de réponse.
Donc,
non mais en fait déjà, qu'est-ce que ça veut dire réussir ou rater sa vie, ça on n'en sait rien, tu vois. Le nombre de gens qui vont percer dans une carrière à 40, 50 ans, tu vois.
C'est vrai.
Ou qui vont faire plein d'erreurs entre 20 et 40 ans et qui d'un coup vont trouver leur voie, mais ils ne l'auraient jamais trouvé s'ils n'avaient pas fait ces erreurs-là avant. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils ont raté de 20 à 40 ans et qu'ils ont réussi derrière? Le nombre de gens qui vont percer très tôt, mais qui vont péter un câble derrière et ça fait que le reste de leur vie est un enfer, j'en sais rien. Par contre, il y a un truc où je m'en rends vraiment compte, et ça, j'ai pas trop de réponse, je sais pas d'où ça vient, mais c'est clair que passé 30 ans, t'as plus la même fougue qu'à 20 ans. Ouais. Moi, j'ai lancé ma chaîne à ton âge, à 25, et j'avais une rage de fou, mais parce que j'avais tout approuvé, j'avais pas de thunes, j'étais en galère de fou, et je sais pas, j'étais en mode, vas-y, là, c'est maintenant. Peut-être aussi, ça joue le fait que maintenant, mon projet, il est un peu plus lancé, tu vois, j'ai plus le questionnement de comment je mange la semaine prochaine, enfin, tu vois, des trucs vraiment dans la pyramide de Maslow, en bas du truc, quoi. C'est ça, c'est mon taf, c'est un peu... Je vais pas dire que tout roule, parce que tous les trois mois, j'ai l'impression que je vais arrêter ma chaîne, j'ai l'impression que, tu vois, j'ai plus rien à proposer, etc. Donc les remises en question, elles sont toujours là. Mais j'ai un truc un peu plus pépère. J'avoue qu'avant, tu sais, je pouvais vraiment me démener pour avoir un invité de ouf que je voulais absolument et tout. Maintenant, je suis en mode... Ouais. Là, hier, il y a Pierre Ninet qui a liké un de mes reels.
J'ai vu.
Et ça me serait arrivé il y a 6 ans. Ouais. J'aurais fait, mais ok, maintenant on va envoyer 2 mails par jour à Pierre Ninet jusqu'à ce qu'il me réponde pour être sûr qu'il vienne et tout. Et maintenant, et là, j'ai juste dit à mon agent, ah tiens, Ryan, il y a Pierre Ninet, vas-y, prochaine promo peut-être, tu vois. Et je lui dis, si ça se fait dans un an, ça se fait dans un an, c'est très bien. Et ça, j'avoue que ça me fait grave du bien. Ça me fait avancer moins vite, ça, je m'en doute. Mais là, je pense qu'entre 20 et 30 ans, t'as un délire de sprint et après, c'est de l'endurance, quoi. Et tu peux pas. C'est marrant parce que d'ailleurs, moi, je bossais en agence de com avant. Et en agence de com, souvent, tu restes entre 20, 26, 27 ans. Après, t'en peux plus. T'es rincé, donc tu vas plutôt bosser chez l'annonceur, chez des marques, tu vois, un truc plus chill. Parce que je pense vraiment que t'as une espèce de fougue que t'as plus après.
Après, ce truc de tu disais, par exemple, je sais que c'est normal. Au début du projet, t'es toujours comme un ouf. Quand c'est le lancement d'un truc, quand c'est nouveau. Genre moi, quand j'apprenais le montage vidéo et tout, parce que je sais qu'on a un point commun, c'est qu'on monte nos vidéos, tout ça. Et genre, moi, ça, c'est un truc au tout début, quand j'ai eu mon premier ordinateur et tout. J'étais comme une ouf, je passais les nuits blanches, je cherchais comment on fait ça, comment on fait ci. Et aujourd'hui, évidemment, c'est toujours un truc qui me passionne, le montage, mais ça se calme, ça fait bientôt 5 ans, pareil.
Tu vas pas tryhard des tutos chaque jour pour dire, il faut que je progresse encore sur... Là, t'es en mode, c'est bon, j'ai acquis ce truc-là, maintenant...
Voilà, alors que je l'ai pas, enfin, en vrai, de vrai, je l'ai pas acquis. Je pourrais encore aller plus loin, je
sais. Mais c'est suffisant pour ce que tu veux faire.
Voilà. Mais du coup, moi, j'avoue, j'ai peut-être un... Là, j'arrive à 25 ans et pareil, je me disais, ça va, 25 ans, c'est rien. Mais quand même, je me dis, il y a 10 ans, j'avais 15 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Et là, je me dis, vraiment, c'est passé à une vitesse. Dans 5 ans, j'ai 30 ans. Et après, ça va s'enchaîner.
Et après, ça va très vite.
Ouais, non, mais surtout, en plus, je sais que c'est pareil. Ma mère, elle m'a dit, tu verras, quand tu auras des enfants, ça va encore plus vite. Je suis là, maman, arrête, ne me dis pas ça. Enfin, je sais que j'ai des projets un peu précis que j'ai en tête et que je pensais vraiment, sincèrement, avoir déjà atteint quand j'avais 20 ans. Je me disais, c'est sûr, à 25 ans, j'aurais déjà fait ça. Et je l'ai
genre
pas encore
quoi,
fait.
Par exemple ?
Par exemple, bon, c'est un petit peu... Bon, de toute façon, vous me connaissez, les gars. J'avais oublié que j'étais sur mon podcast, là.
Chez toi, là.
Sur mon podcast. Bon, les gars, vous le savez. Mais moi, à la base de la base, ce que je veux faire, c'est la musique.
OK. Donc ça, oui, c'est... tu chantes très bien. J'ai vu passer des reels parce que je suis un connard. Sinon, j'ai vu une vidéo YouTube.
Ok, c'est gentil. Mais du coup, de toute façon, je t'inquiète pas, je poste pas grand chose en musique. Donc il n'y a que les gens qui savent qui peuvent savoir. Et j'ai un peu laissé de côté pendant quelques années.
Ok.
Parce que j'étais dans une relation amoureuse où du coup, mon ex ne supportait pas ça.
Ah,
et
cool.
Voilà, trop bien.
Très, très sain, finalement.
Trop cool.
Il détestait les passions. Ah, cool.
Voilà. Et du coup, bah, je faisais un peu de la musique en cachette. Et là, récemment, je me suis dit, vas-y, reprends-toi. Refais de la musique. D'ailleurs, je spoil un peu ici, mais il y a des trucs qui arrivent. Mais du coup, ouais, par exemple, ça, c'est un truc que je veux faire. Et j'ai un peu cette pression bizarre de me dire, meuf, si tu... Alors attention, je suis pas... quand je dis je veux faire de la musique, c'est pas je veux pas devenir Rihanna, tu vois. Je okay. dis pas, j'ai pas l'ambition de devenir chanteuse internationale et tout.
Peut-être juste une Billie Eilish, quoi.
Ouais, voilà, tu vois, un petit Grammys, bien sûr, voilà. Tranquille.
Voilà.
Non, mais pourquoi pas que ça fasse quand même une partie de ma vie,
ouais.
Que je puisse faire quelques concerts, que ma musique elle plaise un minimum, tu vois, parce qu'il faut pas non plus, voilà, on poste pas de la musique pour que t'aies un stream, mais juste voilà réussir un petit peu. Et je me dis, t'es une femme. Si avant tes 30 ans, t'as pas un petit peu réussi à ce niveau-là, bah c'est mort. Je te jure que dans ma tête, c'est comme ça et j'arrive pas à me l'enlever.
Juliette Armanet,
ouais.
Début de carrière, 35 ans.
Tu vois,
tu vois
ouais.
Non, mais en vrai, il n'y a, oui. a aucune règle.
Oui.
Parce que je pense à Juliette Armanet parce qu'elle est venue là dans Tartine de Vie, on en a parlé et tout. Elle, mm-hmm. elle a fait, pendant plus de 10 ans, elle était journaliste. Et puis à un moment, elle s'est dit, mais je kiffe chanter, vas-y, j'ai envie de faire un truc. Et après, elle s'est dit, mais en plus, j'ai envie de faire un peu ma vibe. Elle avait dit un truc qui m'avait marqué, c'est au début, parce qu'elle, elle a fait revenir un peu la chanson française,
ouais.
tu vois, en France.
Ouais.
Et le premier enregistrement qu'elle a fait, c'est un de ses sons hyper connus, je pense, je pourrais pas te dire lequel exactement.
Allez, chante.
Non, en plus, je sais même pas lequel. Et en fait, elle sort du studio, elle dit, c'est un peu ringard, non? Et puis son agent lui dit, mais tu kiffes? Elle dit, mais ouais, moi, je kiffe de fou, ce truc-là.
Ouais.
Mais sortons ça. Et en fait, ça a trop bien marché. Et elle s'est pas posé la question. Enfin, peut-être qu'elle se l'est posée, mais en tout cas, elle l'a fait.
Ouais.
Elle s'est pas, à aucun moment, elle s'est dit, j'ai plus de 30 piges. Mon métier de base, c'est journaliste, c'est pas chanteuse.
Ouais.
J'arrive avec un truc qui est pas du tout à la mode. Elle a fait son truc, elle est arrivée. Et mm-hmm. bon, elle a mis du temps, tu vois, à faire
oui.
son truc et tout.
Ouais.
Mais tu vois, là, bon, je veux pas dire un âge qu'elle a, mais bon, je pense qu'elle est plus proche des 40 que des, que des 30. Et c'est que son deuxième album. Et la meuf, moi, je l'ai vue à Bercy, tu vois. Mm-hmm. Elle remplit un Bercy.
C'est ouf. Non, non, mais oui, non, mais t'as raison. Mais ça, c'est des trucs qui te viennent pas. Je sais pas pourquoi.
Mais parce qu'on voit les success stories des
oui.
gens qui nous énervent. Tu sais, on voit les... Et c'est marrant parce que hier au studio, là, je discutais avec des gens qui sont illustrateurs et qui avaient 20 ans.
Mm-hmm.
Et je leur disais, ah, vous verrez à mon âge, vous allez voir des jeunes talents qui auront 24-25 ans et qui vont tout dégommer, ça va vous énerver de ouf. Ils m'ont dit, ah non, mais nous, déjà, parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux maintenant, on voit des illustrateurs qui ont 15 piges et qui font des trucs meilleurs que nous. Donc en fait, il n'y a même pas d'âge. C'est-à-dire que même bientôt, tu auras 5 ans, tu verras un gamin de 2 ans qui parle, tu feras, ah, le bâtard, lui, c'est parlé.
Non, mais en plus, c'est cool que tu dises. Et enfin le mot énervement, parce que ça moi j'ai un truc, c'est pas que j'assume pas, mais c'est que les comme tu disais, tu vois, les Billie Eilish qui sont des ovnis qui ont 16 ans et qui chantent comme des anges, enfin bref. Et du coup c'est vrai, tu vois, t'as ce truc admiratif, mais t'as ce truc où putain tu te dis oh
ouais, mais tu vois ce que je me dis. Alors déjà, le truc énervement, je pense qu'il faut l'assumer de ouf, parce que c'est bon, on va pas faire genre, on n'est pas sur Instagram, tu vois, on va dire vraiment des fois le succès de certaines personnes nous énerve parce qu'il y a un effet miroir et qu'on se dit putain, pourquoi moi je suis pas là et tout.
C'est
et parce que t'as la sensation de toi faire plus d'efforts ou je sais pas, ou de te dire, mais moi aussi je mérite de ouf. Donc évidemment que t'as ce truc là maintenant. Après, l'idée, c'est de pas ruiner ce truc là, parce que en général tu fais rien et juste tu deviens un vieux rageux aigri. Et là, en effet, peut-être qu'à 30 piges t'as raté ta vie. Mais c'est plus de se dire, ok, déjà, on n'est pas dans la vie des gens. Le nom, moi, j'aime trop, là, je suis en train de regarder le documentaire sur Robbie Williams.
Ouais, je l'ai pas vu. Moi, j'adore.
Et j'ai regardé celui de Beckham aussi.
Beckham, j'adorais.
Incroyable.
Ouais.
Et en fait, tu n'es pas dans la vie des gens.
C'est-à-dire
que des gens qui sont au top de leur carrière, des fois, humainement parlant, ils sont au plus bas. Et moi, je rencontre des youtubeurs qui sont des très, très gros youtubeurs, même des artistes musicaux et tout, français, tu vois.
Ouais.
Je vois qu'il y a certains moments où on a des discussions hyper deep, où je vois que c'est des gens qui sont hyper fragilisés ou dans des moments de doute énormes et tout, alors qu'en fait, derrière, ils remplissent des salles gigantesques et tout. Et de l'extérieur, t'es en mode, frérot, t'as percé, t'as réussi ta vie et tout. Et en fait, non, ils sont à un stade où ils ont pas... tu vois, exactement.
Non,
donc,
clair.
Tu vois, il y a aussi ce truc-là de prendre du recul, de se dire, se comparer, c'est aussi hyper logique.
Ouais.
Et de se dire, vas-y, moi, où j'en suis. Et il y a tellement pas de règles. Je pense qu'on nous a aussi beaucoup fixé la règle de... entre 20 et 30 ans... tu finis tes études et t'as tout approuvé. Entre 30 et 40, tu commences vraiment à te poser. À 40, t'es au sommet de ta carrière et après, tranquillement, ça dégraisse. Ouais. Mais en fait, ça, c'était peut-être vrai à l'époque où t'avais des vrais plans de carrière, comme nos darons. Tu pouvais rentrer dans une boîte. Et encore, nos darons, c'était un peu la fin de ça.
Ouais.
Tu rentrais dans une boîte à 18 ans et tu savais qu'à ta retraite, à 60 ans, tu étais dans la même boîte et t'avais monté des échelons. Aujourd'hui, nous, on va avoir 5-6 métiers différents. Donc, je pense qu'il n'y a aucune règle.
Ouais, c'est vrai. Encore une fois, les gars. Oh.
Et surtout, il y a aussi réussir sa vie qui veut tout dire et rien dire. Il y a vie perso, pro.
Oui,
est-ce que c'est l'équilibre de tout ça?
Ouais.
Des fois, tu es super heureux dans ta vie perso, mais ta vie pro est pas bien. Des fois, c'est totalement l'inverse.
Ouais.
Donc, moi, je pense qu'il y a surtout un truc où on est beaucoup à la quête de réussir sa vie, qui est souvent un truc du futur. C'est-à-dire qu'on dit, ah, vas-y, là, est-ce que quand je serai mort, quand je me retournerai, je serai hyper fier de ma vie et tout.
Qu'est-ce que je veux laisser derrière?
Exactement.
Et tout, ouais.
Mais je pense qu'en fait, la vraie quête, c'est la quête du bonheur. Et la quête du bonheur qui est jamais un truc futuriste, qui est un truc de l'instant présent, tu vois.
Ouais.
C'est de se dire, ok, il y a une marge de manœuvre, et heureusement que même à 80 ans, moi je discute plein de fois avec des vieux dans la rue et tout, j'aime trop me poser à un banc avec des vieux, et souvent je leur dis, ah, du coup, qu'est-ce que vous avez retenu et tout, et des fois ils me disent, mais je c'est pas fini moi, hein,
tu sais,
genre,
il
y a encore des challenges, ouais. Je vis encore des trucs et tout, et je me dis, mais bien sûr en fait, et c'est plus c'est de se dire... Le game de la vie, il est jamais fini tant que... Bon, il finit un moment, hein, spoiler. Mais il est jamais fini tant que t'es pas mort. Mais par contre, c'est à l'instant présent à quel point tu trouves du positif dans ce que... Tu vois, t'es objectif dans ta vie, mais que tu dis, ah, quand même là, je suis quand même heureux parce que je travaille chaque jour pour que ma vie, elle soit la plus équilibrée possible et que je sois dans ce qui me correspond moi, quoi.
Et ça, en vrai, c'est dur, hein. C'est un challenge de tous les jours.
De fou,
hein.
bien sûr.
Vraiment. Moi, je m'en rends compte là parce qu'il s'est passé tellement de trucs dans ma vie cette année. Perso, enfin, tu sais, au niveau des allers-retours entre... On a décidé qu'on revenait en France au début de l'année. Du coup, on est venu en France cet été. On a fait plein de petits voyages. Et en fait, chaque mois, j'avais un événement qui se passait. Chaque mois, il y avait un truc.
Ouais.
Et là, j'en suis au stade où je sais qu'à partir de janvier, là, bon, là, il y a les fêtes et tout. À partir de janvier, il n'y a rien de prévu. Ça va être un peu le moment où il va falloir se poser et juste... Et en fait, j'ai tellement pris l'habitude de tout le temps être dans « Ok, qu'est-ce qui se passe après ?» Ok, là, il n'y a plus que 2 semaines avant qu'on parte ici et qu'on fasse ça et qu'on fasse ci et j'ai ça. Et que du coup, je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout pris le temps de vraiment me dire « Ok, et là, maintenant ?» Et c'est presque comme si... C'est pas que ça m'angoisse de me dire « J'ai rien à regarder là devant, mais presque en fait. »
Ce qui est faux, en plus.
Oui.
C'est que tu vas avoir plein de projets, tu vas faire ta marque,
des trucs.
Les vidéos qui vont reprendre. Là, c'est un renouveau qui est incroyable parce que bon,
ouais.
Moi je t'avais envoyé un message pour te dire, mais putain, comment meuf, tu arrives à sortir des vlogs, autant de vlogs, je sais plus combien t'en sortais et tout, mais c'était ouf, tu vois.
Ouais,
je pense que Lille, elle a été filmée entièrement là, peut-être,
ouais.
tu vois. Donc là, t'arrives dans un renouveau, t'imagines là,
ouais.
tout ce que tu peux filmer, il y a un renouveau qui est incroyable, donc des projets, tu vas en faire 1000. Paris, c'est tellement incroyable. Moi, je déteste autant que j'aime cette ville, donc il va y avoir 1000 trucs à faire. Mais en plus, il y a un espèce de gros piège. Qui est un truc chimique, alors un scientifique pourra mieux t'expliquer que moi,
okay.
mais un truc chimique dans le cerveau qui est que constamment, c'est un truc primitif en fait qui te ramène toujours pour te sécuriser, tu vois, pour éviter d'être une proie dans la nature, ce qui est plus très vrai maintenant. C'est rare de vraiment tomber sur un lion dans Paris qui va t'éclater la gueule. Mais c'est qu'en fait, ton cerveau te ramène toujours à un truc le plus sécurisant possible. Et le problème, c'est qu'en fait, le cerveau, s'il te ramène à un truc, à une situation sécurisante, c'est toujours un truc du passé.
Ouais.
Parce que c'est toujours quelque chose que tu connais. Et c'est pour ça qu'on prend jamais de risques. C'est parce qu'en fait, on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on va gagner.
Oui,
et ton cerveau est tellement mal fait là-dessus. À la base, il est bien fait parce que c'est pour éviter niquer, quoi. Mais qu'en fait, du coup, ça te ramène toujours à un truc où t'as peur de faire des nouveaux projets.
Ouais.
Parce qu'en fait, ton cerveau, il te donne une place tellement importante dans ta tête de ce que tu vas perdre, de ce que tu connais. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, t'as des gens, ils restent parce que... L'avantage maintenant d'avoir dépassé 30 ans, c'est que tous mes potes d'enfance ont dépassé 30 ans aussi. Et on voit, nous, à quel stade on est. Et j'ai notamment un pote d'enfance, tu vois, qui a pas vécu sa vie de 20 à 30 ans, tu vois. Et en fait, il le savait que sa vie professionnelle était merdique, mais que ça se répercutait un peu partout, qu'il faisait pas un job qui l'intéressait, enfin que c'était horrible et tout. Je dis, mais comment t'es resté 10 ans là-bas? Et en fait, il disait, mais le problème, c'est que tu te rends compte que c'est de la merde, mais comme c'est le seul truc que tu connais... Tu penses que potentiellement tu peux avoir un truc encore plus merdique et tu vois pas à quel point ça peut être stylé. Et donc c'est à 30 piges que d'un coup il a eu un ras-le-bol parce que 10 ans c'était trop, tu vois. Il a combattu son cerveau et là maintenant il fait des trucs qu'il kiffe et tout,
génial.
Tu vois. Et c'est jamais parfait.
Mm-mm.
Mais bon exemple déjà que tu peux réussir entre guillemets ta vie après 30 ans parce que lui il a eu le déclic après.
Ouais.
Mais que du coup il s'est dit putain mais pourquoi j'ai pas pris le risque avant en fait. Donc il faut combattre son propre cerveau. Combien de fois t'as regretté de quitter Bali?
Oui, non, c'est
et te dire, mais peut-être qu'il faut que je reste, en fait.
Non, bah oui, bah là, oui, vraiment, si on en parle, ça fait vraiment deux ans que je sais que c'est le moment, mais que du coup, la dernière année, elle n'était pas nécessaire, mais elle était nécessaire pour justement... Je savais très bien que c'était trop dur, même là, en partant de la maison... laisse tomber quoi, j'avais... c'était ridicule. Dans le taxi, s'est arrêté sur la route pour m'acheter des mouchoirs. J'étais vraiment morfonnée, larmes qui s'arrêtent plus. J'étais ridicule.
Mais je t'ai envoyé un message en plus parce que tu faisais des stories de ton mec aussi, qui lui avait l'air hyper chill.
Ah non, mais
et j'étais en mode, mais on dirait que c'est lui qui retourne dans son pays natal. Quoi.
Non, mais c'est la personne. Après, vraiment, sur ce coup-là, le jour où Louis parle français, je ferai un podcast avec lui pour. Peut-être je le ferai sur YouTube en sous-titré. Pour comprendre un peu sa mentalité, mais c'est la personne la plus chill au monde. Donc voilà, bah écoute, moi, là tu viens de me. J'avoue, c'est des mots qui font du bien. Je dis pas que demain j'aurai plus peur de vieillir, parce que ça c'est un truc. voilà.
Ah, moi j'ai très peur de vieillir. Hein.
Ah.
Ah, moi depuis les 30 cool. piges, depuis que j'ai un gamin, depuis tout, je fais des cauchemars la nuit.
Ouais, c'est une.
Tu sais, en fait, je me réveille, je m'endors, et d'un coup je me réveille et je dis putain, je vais crever un jour.
Ah ben non, mais
et
ça...
En fait, qui était une peur que j'ai depuis tout petit. Qui ouais. était vraiment, j'ai eu des états dépressifs et tout, un peu vénère et tout. Sauf que, quand t'es ado, et que je pense qu'il y a plein d'ados qui ont ex-ado et puis des ados là peut-être qui écoutent et qui ont connu ce truc-là et tout. Bah en fait, n'empêche, t'as que 14-15 ans. Donc mm-hmm. en fait, la peur de la mort, elle est tellement lointaine. Et en vrai, si quelqu'un écoute le podcast et a 70 ans, à 30 piges, il dit c'est
oui.
ridicule.
Oui.
Sauf qu'en attendant, bah, tu sépares. La vie en trois parts égales,
ouais.
moi il y a une des trois parts qui est grisée déjà, tu vois. J'ai passé un tiers de ma vie déjà, tu vois. Si tout se passe bien, parce que ça se trouve
oui,
demain je
oui,
meurs.
Oui,
tu vois.
Non, c'est clair, c'est
mais,
clair, c'est clair.
Et juste en fait, ce truc là est vachement badant. Le fait que là, mine de rien, j'ai eu un enfant, lui là il a que 5 mois, mais en fait je le vois évoluer de ouf. Mmh. Ça veut dire que genre mes parents sont devenus grands-parents, mes grands-parents commencent à être gravement malades. Enfin, tu sais, il y a tout un truc où tu vois qu'il y a une génération qui se pousse et que t'es plus la dernière génération
ouais,
et qu'il y a une génération après toi. Mais en vrai, je trouve que c'est assez sain, tu vois. Ce serait trop bizarre de vraiment se dire, ouais, là, moi, la mort, je m'en branle royalement, tu vois.
Non, j'aimerais bien. Mais ouais, j'ai eu exactement la même chose que toi quand j'étais petite. J'ai commencé justement la thérapie quand j'avais 7 ans, je crois.
Ouais.
7 ans, justement, à cause de ça. Parce qu'un jour, je me suis réveillée un matin et j'ai dans ma tête, j'étais en mode, mais attends, mais du coup, là, ça veut dire qu'on va tous quick. Enfin, genre, il n'y a plus même mes parents et tout. Et j'étais aussi en angoisse de me dire, est-ce que je vais être adolescente un jour ? C'était ça aussi. Quand j'étais petite, j'avais une sorte d'obsession et je me disais, est-ce qu'un jour, je vais avoir 13 ans ? Et j'avais super peur de ne pas atteindre mes 13 ans. Et du coup, il y avait tout un truc comme ça où je faisais des grosses crises d'angoisse et tout. Et comme tu disais, après, en adolescence, ça s'est calmé. Et je pense que c'est parce que, je sais pas, l'adolescence, quoi. Et c'est revenu quand j'avais 16 ans. J'ai fait une grosse dépression vraiment vénère. Et juste après ça, c'est là que je suis tombée dans autre chose. Enfin, en gros, je me suis mise au sport pour sortir cette dépression. Je suis tombée dans l'anorexie et tout. Donc, ouais, j'ai eu quelques années qui ont un peu été difficiles. Mais du coup... Là, je sentais que ça allait mieux, genre ma vingtaine, ça allait mieux. Mais là, je me rends compte que j'ai 25 ans et j'ai un petit peu ces angoisses qui reviennent. Mais bon, comme tu dis, c'est sain. Enfin, je veux dire, c'est un truc après qui est là. Il y a des gens qui n'y pensent même pas, des gens qui y pensent plus que d'autres.
Bien sûr, ouais.
Et
mais
voilà,
par contre, ça, c'est les trucs négatifs. Mais par contre, moi, je n'ai jamais été aussi à l'aise avec moi-même que depuis que j'ai 30 ans, tu vois. Là, vraiment, tu sais, il y a un truc où, je sais pas, tout est plus OK, tu vois. Je me prends moins la tête sur ce que vont penser les gens de moi. En plus, professionnellement, ça marche. Donc, tu sais, il y a vraiment un truc, en effet, où je me dis, ouais, tous les efforts que j'ai fait entre 20 et 30 ans, là, je peux y aller un peu plus chill.
Ouais.
Et je pense qu'il y a un truc un peu hormonal aussi, tu vois. Il y a vraiment un truc où je sens que je suis plus serein, tu vois.
Ouais.
Et c'est marrant parce que j'ai des potes qui ont 40 piges et qui sont dans une sérénité encore plus fat. Et je dis, ouais, 40 piges, ça doit être tellement stylé. Après, évidemment, vieillir, t'as pas les mêmes injonctions quand t'es un mec ou une meuf. Donc, moi, la peur de vieillir, en vrai, je suis sûr qu'à 40 ans, physiquement, c'est là où je serais le plus max, tu vois, aux yeux de la société.
Ouais,
alors qu'une femme, on dit, non, mais toi, les hommes, c'est des bonnes bouteilles de vin, alors que les femmes, il y a une date de péremption.
J'ai grandi avec une maman qui, justement, elle, après, elle slay, enfin, je sais pas comment, c'est pareil. Enfin, après, c'est ma maman, je la trouve magnifique, c'est normal. Mais j'ai vraiment, elle a jamais eu cette angoisse, elle s'est toujours sentie, comme tu disais, mieux, plus sereine. Elle dit, mais c'est trop cool, moi, dès que je prends de l'âge, je sens que, comme un update Apple, tu vois, genre, je deviens de plus en plus badass. Donc, c'est cool aussi d'avoir un peu ce modèle-là.
De fou.
Travailler avec son copain, sa copine, sa meuf, son mec, son compagnon. Genre, travailler au quotidien avec sa personne. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais, moi, je travaille avec ma meuf. Et on s'est beaucoup posé la question.
Ouais.
Parce qu'on a autant des exemples que des contre-exemples, tu vois, des exemples où ça marche trop bien et des contre-exemples où vraiment c'est un enfer. Tu sais, on dit souvent en plus pas mélanger pro et perso.
Ouais.
Nous, en fait, on s'est fixé une règle qui était que notre couple passait avant le pro. C'est-à-dire que si jamais ça commençait à se passer mal dans le pro, on disait qu'on arrêtait, tu vois.
Ouais.
Donc on arrête direct et on repassait full sur du perso et on voulait pas que notre couple en pâtisse à cause du pro.
Oui.
Mais après, il se trouve qu'avec ma meuf, on a un terrain d'entente qui est ouf, qu'on trop bosse trop bien ensemble et tout. Donc,
trop bien.
Cool. Donc en vrai, moi, j'y crois, mais je pense que c'est un équilibre de couple en fait à trouver, et je pense qu'en fait c'est pas très bateau, mais c'est beaucoup de communication aussi, tu vois.
Ouais.
C'est que je vois aussi le nombre de non-dits qu'il peut y avoir. En fait, le pire qui peut arriver, c'est qu'il y a des trucs qui se passent mal dans la journée, dans le pro, il y a des petits trucs qui sont lâchés et tout, tu vois. Mm-hmm. Et le soir, en fait, tu te retrouves en couple, et en fait personne n'en parle parce que tu dis non mais là c'est le perso, on en parlera demain ou quoi.
Ouais.
Sauf qu'en fait on n'est pas des robots, tu vois, donc évidemment que ton cerveau il se scinde pas. Donc je pense que ça peut se faire. C'est délicat selon les personnalités, je pense que ça marche pas toujours. Selon les postes aussi. Ma meuf, elle a un métier qui a rien à voir avec moi, donc on a aucune concurrence directe.
Okay.
Si j'avais une meuf youtubeuse par exemple, peut-être que, et encore ça doit marcher, mais c'est vrai que on a vite les contre-exemples et tout. Mais on a aussi plein d'exemples en fait, hein. Je dis ça, mais tu vois, Léna Seb par exemple, l'équilibre est trop bien.
Ouais.
Même si on n'est pas dans leur couple, tu vois, mais de l'extérieur ça marche très bien. Donc c'est plus le moment où est-ce qu'il y a une concurrence ou est-ce qu'il y a une comparaison avec cette personne, et là ça devient malsain quand c'est ton couple, quoi.
Ouais, bah moi typiquement j'ai essayé, je l'avais fait une fois dans mon ancienne relation, et là avec Louis pareil, on a essayé.
Dans la musique ?
Non, pas dans la musique, on a essayé de travailler. Dans la musique, on est en train justement, enfin on s'est remis du coup.
Parce qu'il fait de la guitare, lui, ça.
Oui, lui, il fait de la guitare. Et là, du coup, on compose des choses ensemble.
Trop bien.
Et trop bien, mais quand même, parce que du coup, on avait essayé de travailler. Il y a eu un moment pendant, du coup, le Covid, où lui, il avait perdu son taf à Bali, parce que c'était un tattoo shop qui avait fermé, etc. Okay. Et du coup,
Il est tatoueur, ton mec ?
Il manageait le tattoo shop.
Ah, ok.
Il n'est pas tatoueur, mais il manageait le truc. Et donc, il avait fermé pendant quelques mois et tout. Et du coup, moi, je lançais à peine ma marque de fringues et j'avais besoin de... Et du coup, je lui avais dit, viens, rejoins la team et tout, on fait un truc ensemble. C'était horrible, vraiment. Enfin, le coup, nos personnalités... Et c'était trop bizarre parce que, comme tu disais, niveau personnel, c'était fou comme dans le travail. On n'avait plus rien à voir, plus du tout la même dynamique et tout. Et du coup, ça prenait trop de place sur le perso et on a décidé que c'était pas possible. Et là, du coup, dans la musique, on vient de reprendre à travailler sur ce projet ensemble. Mais il faut quand même qu'on garde le truc que c'est un hobby. Dès que ça devient trop sérieux et qu'on se dit...
Dès qu'il y a de l'enjeu, c'est mort.
Voilà. Dès qu'on se dit... Dès que je lui... Par exemple, que je lui dis, on a quand même une petite... Un petit rush là, il faut qu'à cette date on ait fini ça et il faut qu'on se passe ça, c'est too much. C'est
à dire, si toi tu veux faire de la musique un peu sérieusement, tu sais que ça pourra pas être avec lui.
Oui, voilà. Moi personnellement, je trouve que c'est pas vraiment un avis, que je me dis que voilà, ça dépend des personnes et tout, mais quand même c'est délicat. Comme tu dis, ça dépend des personnalités, mais moi en tout cas, je vois qu'avec mon mec, c'est super délicat d'avoir ce truc de vraiment pro entre nous. Et déjà que moi j'ai du mal à faire la différence entre... Enfin, ma vie pro affecte énormément ma vie perso. Genre, j'ai trop du mal. Tu disais tout à l'heure que il y avait un petit peu ce truc de réussir sa vie pro, réussir sa vie perso, être heureux dans sa vie pro. Des fois, t'es trop bien dans ta vie perso, mais dans ta vie pro, ça va pas. Ben moi, j'ai trop du mal dès que j'ai un truc qui se passe pas très bien niveau pro. Ça affecte direct ma vie perso et j'ai trop du mal à déconnecter ça.
Mmh.
Et bon, après, je vais...
Ce qui est normal. Oui, hein. Voilà. Je pense que t'as plein de gens, même qui ont des jobs normaux, il y a un truc qui se passe mal la journée, évidemment que tu rentres le soir, t'y penses et tout.
Ouais, ouais. Mais je suis quand même en train de faire des efforts parce que, en vrai, pareil, tu vois, YouTube, c'est un monde un peu à part et t'as tout ça, t'as ce truc de statistiques et tout, des fois, qui te monte à la tête. Et ça, c'est chiant. Et je pense que c'est parce que aussi, je suis un peu au début. Je sais pas, toi, comment tu le vis aujourd'hui, ça va...
Non, franchement, ça s'arrête jamais.
Okay, bon.
Non, mais bien sûr. Et puis surtout, on a un truc de... Oui. J'ai une vidéo qui va faire 1 million de vues. Je suis en mode, putain, trop bien.
Ouais.
Bon, putain, j'espère que la prochaine, elle va bien marcher. Tu vois.
Oui.
Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais.
Ouais, ouais, non,
donc,
c'est clair.
Évidemment, on va dire que ça m'impacte moins.
Oui.
Je pouvais faire... si j'avais vraiment un fiasco avant, ça pouvait être la fin. J'avais l'impression que c'était la fin de ma carrière et tout.
Oui, oui, oui.
Aujourd'hui, j'ai moins ça, quand même.
Oui.
Mais bien sûr, c'est un truc, ça régit nos tafs. Mais est-ce que... Quand t'as bossé avec Louis sur la marque, que ça s'est mal passé, qu'après vous avez dit « Ah non, mais vas-y, on arrête », c'était il y a combien de temps, ça ?
Il y a environ 1 an et demi, un truc comme ça.
Donc, 1 an et demi après, est-ce que t'as encore des mini-ressentiments sur lui par rapport à ça ? Genre, ça a cassé un mini-mini truc, tu vois ?
Je dirais que...
Le silence, déjà, est trop long. Non, tu as répondu à ma question.
Non, c'est juste que je le connais. Disons que ça m'a appris à le connaître mieux.
Ouais.
Voilà, c'est juste
ça. C'est un branleur, voilà. C'est mais c'est un branleur.
Non, mais du coup, ça m'a appris à mieux le connaître. Et on n'est juste pas compatibles. Mais en même temps, ça me prouve aussi que avant, je pensais vraiment... J'avais cette image de relation où il fallait que tu te mettes avec quelqu'un qui avait le même niveau d'ambition que toi. qu'il fallait que tu, ouais. que tu trouves quelqu'un qui soit, pas forcément qui ait les mêmes projets que toi, mais qui se projette un petit peu de la même façon que toi et qui ait cette ambition, cette envie. Et je suis tombée avec quelqu'un qui n'est pas du tout... Bah, typiquement, Louis, c'est le genre de mec qui n'a aucun problème à se dire « j'ai mon petit travail pépère, il n'a pas forcément des envies d'avoir un jour son truc à lui ». Il est hyper simple à ce niveau-là.
C'est un peu balou dans le livre de la jungle.
Voilà,
non, il en faut peu pour être heureux, t'es chill.
Non mais en vrai c'est fou, mais ouais, il pourrait grave chanter cette chanson. Mais du coup, c'est un peu l'opposé de moi, où j'ai un peu l'impression que des fois même c'est trop, mais j'ai toujours tous ces grands objectifs et je me dis il faut que je fasse ça dans ma vie, il faut que je fasse ça. Et au final ça marche.
Ouais, c'est trop intéressant parce que ça revient à la première question de est-ce que tu es ton entourage.
Ouais.
Et bon, ton mec en général, ton mec, ta meuf, c'est souvent la personne la plus importante de ton entourage,
ouais,
c'est que tu vois la
c'est
plus.
Vrai, c'est vrai.
Et là, t'as ton mec qui fonctionne pas du tout comme toi.
Ouais,
est-ce que t'as l'impression que ça te tire vers le bas ou est-ce que c'est hyper complémentaire finalement?
Bah, en fait, ça crée un équilibre de ouf.
Ouais.
Parce que j'ai
un peu
ce truc.
Ça te calme quand tu peux être.
Ça me remet les pieds sur terre où je vois que lui, même quand c'est le pire dans sa vie pro. Il a quand même ce truc où il arrive à souffler le soir et à se dire ça va, c'est bon, j'ai mangé, j'ai un toit. Après, c'est aussi vachement, je sais que sa culture à lui est complètement différente. Et je vois que les Indonésiens, ils sont vachement comme ça, où ils sont tout le temps reconnaissants pour tout et tout, et ça, c'est génial. Mais du coup, ça fait un peu cet équilibre où...
Attends qu'il arrive à Paris.
Ouais,
il va comprendre. Non, mais tout va bien, quelqu'un va le percuter en pleine rue sans lui dire pardon, parce que pour attraper le bus, il va faire « mais je vous emmerde tous ».
Je te jure. Là, déjà, il sait dire un mot, c'est « putain ». Et alors là, ça commence. Je te dis, si tu veux être un bon français, tu dis « putain » toutes les phrases, tu marches dans la rue, tu dis « putain ».
C'est intéressant parce que du coup, on a deux...
Ouais.
Là, c'est un vrai hot text, parce qu'on n'est
pas...
Mais en effet, ça peut marcher ou ça peut être un fiasco total, quoi.
Ouais, ça dépend, encore une fois, des relations et tout, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la citation ? J'ai beaucoup de citations aujourd'hui. « Tout arrive pour une raison ».
Je pense que tout arrive pour une raison, mais pas d'un point de vue fataliste.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, tu sais, évidemment, quand un truc positif t'arrive et tu dis « tout arrive pour une raison », c'est cool.
Ouais.
Souvent, on le dit quand il t'arrive une énorme merde et t'as envie de dire « mais la personne te dit ça au moment où c'est comme un perdu, des heures retrouvées, ferme ta gueule, en fait, c'est vraiment « laisse-moi
c'est
vivre
clair,
ma peine, en fait,
c'est
tu
clair,
vois ».
C'est clair.
Mais je pense que tout arrive pour une raison. Pas, je crois pas au fait que tout soit écrit, tu vois, et que dans 10 ans après, tu dis « ah ouais, ça, c'est arrivé pour ça, c'est arrivé pour ça ». Je pense que tout arrive pour une raison parce que t'en fais un truc derrière.
Mm-hmm.
Donc, une merde qui t'arrive, je sais pas, tu te lances dans un projet ou un entretien d'embauche et en fait, on te prend pas, tu vois. Évidemment, tu sors de l'entretien, on t'a dit « non, ce sera pas vous » et tout, on te dit « tout arrive pour une raison », t'es en mode « bah, la raison, c'est quoi ? C'est que je suis une merde.
Ouais. »
Et genre, 2 ans après, tu dis « ouais, mais heureusement qu'en fait, j'ai pas été pris là parce que derrière, finalement, j'ai fait un autre taf, un autre truc qui a été incroyable, beaucoup plus stylé que ce que j'aurais dû faire. » Là, tu peux dire « tout arrive pour une raison », mais c'est aussi parce que t'en as fait quelque chose, tu vois. C'est que tu dis « bon, bah là, comment je rebondis par rapport à ce truc-là » J'ai moins un truc, et pourtant, je suis très spirituel, comme je disais tout à l'heure, mais je crois pas au fait que tout arrive pour une raison et que Dieu a un plan pour toi et tout a été écrit, tu vois.
Ok.
Je dis Dieu de manière globale, tu vois, l'univers a écrit un truc pour toi. Mais je pense plus que oui, en effet, tout arrive pour une raison, parce que chaque truc qui t'arrive dans la vie est une opportunité de rebondir et d'en faire quelque chose.
Ouais, ouais,
et soit t'en fais encore plus de la merde, soit t'en fais un truc hyper positif.
Punaise, tu m'as cloué le bec, mais j'ai plus rien à... Super, qu'est-ce que je dis maintenant?
Tu penses que tout arrive pour une raison?
Ouf. Alors, pendant longtemps, c'est un truc qui me rassurait. Je sais que je me le disais beaucoup, et même là, des fois, je me surprends à me le dire à moi-même. Des fois, quand tu as des choses qui me frustrent, des choses qui ne marchent pas autant que j'aimerais, ou de voir justement, comme tu disais tout à l'heure, des gens qui réussissent plus rapidement, plus jeunes, qui débarquent de nulle part et qui genre cartonnent. Et toi, tu te dis, putain, ça fait des années que je suis là et que je bosse et que je m'acharne et tout, et moi, ça ne marche pas. Et des fois, dans ces moments-là, je me dis, chacun son timing, tout va arriver, tout arrive pour une raison. Si ce n'est pas mon temps maintenant, mon temps, il va venir et tout. Et ça revient à l'angoisse aussi de l'âge où je me dis bon, c'est pas grave, s'il y a 25 ans t'as pas encore fait ça, c'est que ça va arriver, il va y avoir ton moment et tout. Donc c'est une phrase qui me rassure dans certains moments, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi une phrase qui est un peu énervante parfois, parce que en soi, pareil, tu vois, quand tu perds quelqu'un, t'as pas envie qu'on te dise tout arrive pour une raison.
C'est quoi la raison du coup?
Ouais, voilà, à part me détruire, top. Donc non, après je copie Ben, voilà, j'ai zéro personnalité dans ce podcast.
Non mais c'est grave intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi si au moment de lancer ma chaîne Parce que tu vois, j'en vois des gens hyper sur YouTube en un an, ils ont 1 million d'abonnés. Tu fais, mais putain, ça fait 6 ans que je suis là, j'en ai que 500 000. Et alors qu'en fait, c'est énorme.
C'est
tu
énorme.
Vois. Mais, enfin, 550 000, bah, mais un peu plus. Mais... voilà, bon, j'en ai à peu près, je sais plus. Bon, je connais pas les chiffres, mais 555 350. mais tu vois, je me dis, si j'avais percé en un an à 25 ans, je pense que j'aurais pété un câble. Et je suis trop content que tout arrive progressivement parce que du coup tu fais moins d'erreurs parce que t'apprends au fur et à mesure et tout. Et là tu dis en effet, ouais, tout arrive pour une raison. Il y a des invités qui sont typiquement, il y a des invités qui ont refusé de venir ou que j'avais jamais réussi à avoir au début de ma chaîne, qui sont venus là il y a pas si longtemps. Tu vois, genre un Farid par exemple que j'avais déjà contacté il y a 4 ans, je crois. J'ai jamais eu de réponse, on n'avait jamais réussi à le faire et tout. Où il y avait une Nikita Bellucci ou des gens comme ça. Et en fait, quand je les ai reçus, je me suis dit, putain, mais heureusement que je les ai pas eus 3-4 ans avant, parce que j'étais moins bon en interview, et là, je leur ai fait dire des trucs trop intéressants, parce que j'étais hyper rodé, je les ai reçus dans une émission qui, visuellement, est beaucoup
trop
plus stylée,
ouais.
Avec des stats beaucoup plus impressionnantes, enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là où je me dis, là, j'étais beaucoup plus mature pour les avoir, tu vois.
Heureusement. Ouais, c'est rigolo que tu dis ça, parce que moi, pareil, j'ai eu cette réflexion, où justement, je pensais par rapport à la musique, et je me disais... parce que je regardais un peu des anciennes vidéos de moi, de ce que je faisais et tout à l'époque. Je ressortais des vieilles compos que j'avais dans mon ordinateur. Et des trucs, je me dis, mais oh mon Dieu, heureusement que t'as jamais mis ça. Enfin, heureusement en fait, heureusement. Et je suis contente, je me dis que bah, si un jour il y a un truc qui se passe aujourd'hui, disons que je suis plus fière, j'écris mieux et tout. Bon, j'ai encore beaucoup de taf, mais je me dis que voilà, au final, tant mieux. Parce que je pense que j'aurais pas assumé quoi. Il y a des trucs que tu peux trouver sur internet de moi qui sont très très très, très drôles. Je te les montrerai après.
Ah oui, plaisir.
C'est très drôle.
Ils sont
non
répertoriés ou c'est...
Il y a des trucs que je ne peux pas toucher parce que j'ai pas la main dessus.
Oh, wow.
Donc c'est
que les gens t'ont déjà ressorti ou c'est
Oui.
Okay.
Des fois qu'ils ressortent sur TikTok de temps en temps je me vois, je me dis merde.
Magie de TikTok.
Pitié que ils me reconnaissent pas. Pitié. qu'est-ce qu'on a en autre hot takes? Après ça revient sur la spiritualité, mais la manifestation. Est-ce que tu es un... Est-ce que tu manifestes les choses dans ta vie? Est-ce que tu penses qu'on attire...
Que le positif attire le positif?
Ouais.
Est-ce que plus égale plus?
Est-ce que plus égale plus?
Oui, en vrai, oui. Parce que c'est marrant, ça a été beaucoup décrié. Parce que pareil, en fait, il y a un truc où quand tu l'appliques à la vie de tous les jours... Mm-hmm. Bon, oui, évidemment, t'as une famille pauvre, t'es en mode « Non, mais plus égale plus ». Bon, évidemment, tu vois, le positif attire le positif, t'es en mode « Ouais, mais bon, on est quand même pas dans un monde de bisounours et il y a aussi plein de trucs qui vont pas ». Plus t'es aigri, plus le monde autour de toi te donne des raisons d'être aigri. Plus t'es positif, plus t'es optimiste, plus tu vas faire des choses pour les bonnes raisons, plus en effet les trucs qui vont t'arriver vont être vraiment des trucs cool.
Oui, des conséquences.
Mais tu sais, dans le business, on dit souvent que les clients de merde t'apportent des clients de merde. Souvent, tu sais, tu fais un partenariat avec une marque en disant « Ah, la marque est pas folle, mais c'est pas grave, ça va m'apporter d'autres refs. » Et derrière, en fait, il y a que des marques de merde qui te contactent et tu fais « Je comprends pas. » Et moi, j'ai eu plutôt, tu vois, par exemple, la stratégie inverse de dire « On va faire plus de rareté et tout.
Ouais.
Je vais bosser que, tu vois, les dernières vidéos, c'est avec Netflix pour Sex Education.
Trop bien,
c'est Yves Saint-Laurent. » Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu...
Vraiment
quand même,
cali,
c'est des trucs
cali,
quoi. Et en fait, le fait de faire ça, ça m'apporte que des marques hyper stylées qui viennent à moi. Et où là, je me dis « Waouh, trop bien !» Alors qu'en fait, si j'avais accepté des trucs un peu plus merdiques, sans citer de nom, évidemment, mais tu vois, j'aurais été moins bien payé, on aurait fait un truc moins stylé et tout. Parce que tu te donnes aussi une image, et c'est vrai, là, c'est très vrai dans nos métiers, tu vois, mais c'est vrai dans tout ce que tu fais dans la vie. En fait, tu rayonnes, je crois beaucoup aux énergies, tu vois. Tu rayonnes une énergie, et souvent, quand tu rayonnes une énergie un peu aigrie et négative, tu le sens, et souvent, t'attires des gens négatifs, ou des gens qui vont se servir de la négativité, tu sais, des manipulateurs, des gens des sensus énergétiques et tout, tu vois. Et du coup, bah, en fait, t'étais aigri, du coup, t'attires des gens aigris, du coup, ça te donne toutes les raisons de te dire le monde est fait que de gens aigris, donc tu deviens encore plus aigri, et triplement aigri.
C'est trop drôle, mais je crois que j'ai commencé à justement vraiment pas manifester, mais à me... J'écrivais, tu sais, enfin, je faisais le truc basique d'écrire des petits trucs motivants, tu sais, sur mon miroir avec des petits post-it tous les matins. Et ça, j'ai commencé à le faire pareil quand j'avais genre 20 ans. Parce que c'est pas que j'étais quelqu'un de très négatif avant, mais un petit peu quand même. Genre, il y a eu un moment de ma vie où j'étais un peu devenue une petite meuf aigrie. J'étais entre mes 17 et mes 20 ans, justement, avant que je quitte tout et que je me dise, vas-y, pars voyager, faut que tu fasses un truc et tout, faut que tu bouges. J'étais un petit peu... je voyais tout le temps de négatif partout.
Okay.
Je me disais, de toute façon, c'est bon. Dès que je voyais quelqu'un, le bonheur de quelqu'un, ça me rappelait à quel point moi, je n'étais pas heureuse et tout.
Okay. Est-ce que ton entourage était comme ça aussi?
J'avais pas, en fait, j'avais plus... Tu sais, c'était un moment de ma vie où vraiment, pour le coup, je pense que c'était un enchaînement de tout, mais j'avais plus vraiment d'entourage.
Okay.
J'étais enfermée dans une relation qui n'était pas du tout... C'était pas une relation toxique, Mais c'était juste, ouais, j'étais enfermée dans ma petite relation et je voyais plus vraiment de personne. J'étais très centrée sur moi-même, mais pas positivement.
Okay, ouais.
Tu vois, pas, j'étais pas en mode de « Ouh, let's go !» C'était vraiment pas positif. Et du coup...
Tu te rappelles la première fois que t'as mis des affirmations en post-it sur ton miroir ?
C'était vachement des trucs sur mon apparence physique.
Okay.
Et comme tu disais tout à l'heure, par rapport à l'âge, ça c'est un truc trop positif, c'est que je me rends compte par contre que plus je vieillis, et mieux je me sens.
Okay.
Et ça veut pas dire que je suis plus fraîche qu'avant, hein, parce que je regarde des photos de moi quand j'avais genre 18 piges, c'était un moment où je détestais mon corps, pourtant je me trouvais méga plus fraîche qu'aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui je me sens beaucoup beaucoup plus à l'aise avec mon corps, c'est trop cool, et je me dis j'espère que ça va aller avec l'âge, mais ça c'est un point positif. Mais du coup j'étais, ouais, vu que j'étais mal dans ma peau, c'était vachement des trucs sur mon apparence physique, donc c'était vachement des trucs genre tu es belle, ton apparence ne définit pas ta valeur, tu vois, des trucs un petit peu comme ça. Et
est-ce que tu te sentais con quand tu les écrivais?
Ah, de ouf, de ouf. Et le pire, c'est que, tu sais, moi, je suivais grave des vidéos de gens qui motivaient. À l'époque, c'était genre des Gary Vee et tout. C'était vachement la trendy.
C'est un Américain.
Ouais, c'est un Américain. Et
moi, je suis plus français parce que je parle pas anglais. Ah. C'était plus les David Laroche ou des gens comme ça.
Ok. J'avoue, moi, j'ai commencé à suivre le... Bah, j'ai commencé à un peu regarder les YouTube Games français, là, il y a un an. C'est comme ça que je t'ai découvert.
Ah ouais, ok.
Ouais. Il y a un an, pour te dire, je ne connaissais même pas Joyka, je ne savais pas qui c'était. Hein.
Ah ouais, ok.
J'ai découvert en février, là.
Waouh. Squeezie, tu le voyais, quoi.
Non, par contre, vraiment, Squeezie, j'ai commencé à regarder... Pareil, il y a genre un an et demi, quoi.
Ah ouais, putain, ouais. T'as bien rattrapé le retard, quand même.
Ouais, 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 ouais. Là, j'ai tout... j'ai fait marathon de vidéos. Mais du coup, ouais, non, j'avais honte, mais le matin, je me réveillais, carrément, je lisais les affirmations. Mais... Écoute, j'avais l'air bête, mais je te jure que c'est peut-être placebo, mais ça a marché.
Ouais.
Genre, ça m'a juste, le matin, au lieu d'être là, à ronchonner, dire putain, merde, machin, je disais mes trucs genre, tu es resplendissante, tu es magnifique, tu es capable. Mmh. Et ça me faisait du bien, peut-être que c'est placebo, tu vois.
Non, mais en fait, ça aussi, c'est... faudrait que je ressorte le bouquin. Il y avait une étude hyper intéressante où, en fait, ils comparaient le niveau de bonheur selon les langues.
Mmh.
Et à quel point en fait la manière de parler, les mots que tu poses sur des idées, ouais, impactent psychiquement ton cerveau.
Mmh.
Et en fait t'as plein de langues où il y a moins de négation.
Okay.
et moins de termes, tu vois, en anglais je vais dire une connerie, mais prendre un risque, ça se dit take a chance, je crois.
Ouais.
Un truc comme ça.
Ah ouais.
Et en fait bah t'as prendre un risque ou alors prendre ta chance, oui, ce qui, oui, veut dire la même chose, mais clairement c'est deux visions différentes. Et en fait ils ont vu que plus une langue avait de la négation, plus les gens étaient malheureux, en fait, et un peu aigris, quoi, dans leur, ouais, vie et tout. Ouais. En tout cas, voyaient les choses de manière hyper négative. Alors que toutes celles qui ont des langages où il y a moins de négation, et ben, au contraire, les gens avaient un niveau de bonheur plus élevé, tu vois.
Ça a du sens, hein.
Je dis, bah, évidemment, ça veut dire que, oui, évidemment, t'as l'air con à faire tes trucs, à dire, ouais, j'enlève la négation de mon... J'arrête de dire...
Oui, oui,
c'est,
oui,
quand,
oui,
tu dis, ah, j'y arrive pas, t'es en train de dire, bah non, en fait, je suis en train de devenir un expert dans ce truc-là.
Ouais, j'apprends.
Au début, ouais, exactement. Au début, tu dis, ah, j'ai l'air vraiment con. Ouais. Ou alors tu dis, je suis dans le déni à dire des trucs comme ça. Et en fait, mine de rien, bah, à force de le faire, tu reprogrammes ton cerveau, ouais, et finalement, ça devient un truc où tu vois vraiment des trucs hyper positifs dans ta vie. Quoi.
Vrai, mais c'est trop intéressant. Ce que tu viens de dire, ouais, j'avais jamais pensé. C'est un livre que t'as lu, tu m'as dit ?
Ouais, c'est un livre qui reprenait c'est l'étude. Cool. Faudrait que je retrouve l'étude.
Non, mais en vrai, c'est trop. Enfin, ça a grave du sens. Ça a grave du sens. Et du coup, ouais, je suis. J'avoue que j'ai un petit peu mes petits rituels. C'est pas vraiment.
Ah, t'as gardé ça ?
Ouais, en fait, c'est plutôt que chaque début de mois, je fais des. Je fais une note où j'écris genre comme si c'était au présent.
Ok.
Genre j'écris ce mois-ci j'ai fait ça, j'ai réussi ça, j'ai machin. Et généralement sur 5 trucs que j'écris, il y a toujours 3 trucs qui se font.
Trop bien.
Voilà. Alors après c'est
tu
moi
mets des trucs
aussi,
concrets,
hein,
genre de projets,
ouais,
et tout.
Ouais. Ouais. Et du coup je les écris. C'est pas des trucs de malade parce que je me suis rendu compte que j'arrête de trop me fixer des énormes objectifs et je suis plus en moi je me fixe des petits objectifs qui vont me mener potentiellement vers la réussite du gros
bien
objectif.
Sûr. Ouais.
Parce qu'avant enfin je me matrixais la tête avec des trucs bah du coup je voyais jamais la fin quoi. Et du coup là ouais tous les mois je me mets des petits objectifs. Mais du coup, 5 trucs que j'écris comme si ça s'était passé. Il y a des gens qui disent que c'est parce que vu que ça reste dans un... Tu l'as écrit, ça reste dans un coin de ta tête. Du coup, tu vas te comporter de telle façon que... Je sais pas comment ça marche réellement. J'avoue, je me suis pas trop... Faudrait que je lise des livres et tout sur ça.
Il y a un truc d'engagement mais... peut-être. Comme si tu t'étais engagé à le faire. Peut-être. Donc, tu développes plus de motivation à le faire.
C'est concret, c'est à l'écrit et tout. Laisser tomber ses projets, sa vie, ses proches, sa famille. Pour suivre l'être aimé.
Oh, waouh. Moi c'est marrant, j'ai fait plutôt l'inverse. Bah, en vrai j'ai toujours priorisé plus ma famille et mes projets plutôt que ma relation.
Okay.
Enfin que mes relations amoureuses, évidemment c'est plus vrai du tout parce que maintenant j'ai une famille et tout. Mm-hmm. Enfin je veux dire j'ai une famille avec ma meuf.
Ouais.
Mais quand j'ai lancé ma chaîne YouTube par exemple, ça allait pas très bien dans mon couple et on s'est séparés parce que j'étais en mode vas-y, je vais quitter l'entièreté de ma vie pour arriver à Paris et pour tenter ce truc-là parce que j'ai 25 piges, que j'ai envie de me lancer sur une chaîne YouTube, j'ai envie de faire des vidéos et genre si je le tente pas maintenant, je vais devenir aigri à 30 balais si je l'ai pas fait quoi. Donc j'ai plutôt fait ça parce que je pense que la seule... c'est horrible, hein, mais je pense que la seule personne qui peut ne jamais te décevoir et qui dépend le plus de toi, c'est toi, tu vois. Donc je me dis qu'en fait, c'est compliqué derrière de tout quitter pour quelqu'un que t'aimes. Tu lui fais aussi porter potentiellement le poids de tout ce que t'as quitté. C'est-à-dire que si jamais il y a un moment où ça se passe pas bien, tu peux lui dire, bah en gros, attends, j'ai quitté ma vie entière pour toi.
Du coup, t'es responsable.
Ouais. Exactement. Et mais ce qui peut en plus entraîner la perte de ton couple, parce que tu peux rajouter un nouvel enjeu dans ton couple qui était pas là à la base, parce qu'en fait, c'est une relation... il n'y a pas de hiérarchie normalement dans un couple, tu vois. Et là, tu peux d'un coup avoir un truc de waouh, ok, je suis dépendant de cette personne, j'ai tout quitté pour cette personne, donc elle a intérêt à me le rendre.
Ouais. Ça dépend de la... C'est clair qu'on n'a pas trop de détails sur la situation. Moi, je sais que je l'ai vécu. Enfin, j'ai vécu une rupture par rapport à ça, du coup, il y a 4 ans, 5 ans bientôt. Quand je suis partie, du coup, mon ex n'a pas voulu me suivre.
Ok, ah, t'étais en couple quand t'es partie à Bali?
J'étais en couple, on venait vraiment de s'installer, on avait maison à la campagne et tout. Enfin, c'était sérieux, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et tout. Et du coup, moi, j'avais vraiment ce truc de j'avais envie de voyager. Et ça m'est venu un petit peu comme ça sur un coup de tête. Mais quand je me suis dit je veux voyager, c'est pas en mode je veux voyager et quitter la personne avec qui je suis. Ouais, c'était en mode vas-y, viens, on y va, tu vois. Et il y a eu forcément cette discussion de... au début, il y a eu ce truc où il m'a dit vas-y, pendant un mois, éclaireuse et tout, tu vois si c'est bien, on ira ensemble et tout. Et je pense que pendant ce mois-là, lui, il a eu cette réflexion-là de se dire ok... Est-ce que là, moi, j'ai envie de tout quitter? Je viens... À l'époque, il devait avoir... Moi, j'avais 21 ans, donc il devait avoir bientôt 25. Et il venait de lancer son business et tout. Et il a dû forcément avoir cette réflexion de se dire « Ok, moi, je viens de lancer ça. J'ai ma famille qui est ici. Est-ce que j'ai envie de tout quitter pour être avec la personne que j'aime ?» Parce que, bon, c'est pas non plus le couple parfait, tu vois, forcément. Après, une fois que tu te sépares, tu te rends compte de toutes les choses qui allaient pas. Mais pour moi, j'étais un peu dans ce truc où notre couple, il allait bien, il n'y avait pas de raison qu'on se sépare et tout. Mais du coup, il y a eu ce truc où lui, il a eu à me dire cette décision de je vais pas te suivre parce que je vois pas, j'ai pas envie de tout lâcher pour être avec toi, même si je t'aime et tout. Et moi, pareil, qui ai dû prendre la décision, je pars quand même sans toi. Donc il y a eu cette séparation. Et au final, pour ça, c'était pour le meilleur, voilà, tout se bien, tout se passe bien.
Tu veux dire que tout arrive pour une raison ?
Voilà. Yes. Bien sûr. Ça revient. Mais là, du coup, par exemple, tu vois, je suis dans la situation inverse où Louis, pour le coup, il a un peu tout quitté.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Pour me suivre. Parce que du coup, là, lui, c'est
vrai
pareil.
Que je fais vraiment mon speech depuis tout à l'heure, en mode ça va déséquilibrer ton couple et tout. Toi, t'es là, tu me regardes avec une suée sur le front, en mode ok, qu'est-ce que je vais porter comme poids.
Merde. Mais du coup, pour le coup, c'est vrai que j'ai un petit peu cette... J'ai eu trop de questions, justement, dès que j'ai annoncé le déménagement. Est-ce que t'as pas peur de le déraciner? C'est un peu égoïste, ta décision. Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il vient pas juste pour toi et tout?
Après, c'est un grand garçon. Hein. C'est non, il a pris sa décision. Il aurait pu aussi dire j'ai pas envie, quoi.
Oui, non, c'est clair. Et puis moi aussi, je veux dire, il y a eu un peu ce truc où aussi on a cet échange où moi, je suis restée 4 ans en Indonésie. Moi, je l'ai fait. Lui, c'est pareil. Il se dit, si toi, t'as pu le faire et que t'as réussi à t'adapter pendant 4 ans, pourquoi moi, j'y arriverai pas, tu vois? C'est aussi un peu cet échange qu'on a. Pour en revenir à ça, là, je sais que lui, il a un peu tout quitté. Alors, il avait pas des accroches de malade. Comme je vous ai dit, Louis, c'est un peu le mec simple et tout qui se prend pas trop la tête. Et il a quand même laissé ses amis, tous ses meilleurs potes. Ouais. Là, je le vois, tu vois, ça fait que 2 semaines. Mais je me dis, il faut vite qu'on déménage dans une ville parce que dans le sud de la France, il a pas son permis. On est dans la campagne.
L'enfer.
Il y a 3 vaches dans un champ à côté. Enfin, t'as vite fait le tour, il y a rien à faire, il dépend de moi et tout. Donc là, de le voir à Paris, je l'ai vu tout joyeux hier, qui est parti boire son petit café.
On a été au marché de Noël. Tu sors, il peut faire les trucs à pied, voilà. À métro, à vélo.
C'est clair. Et là, je vois que ça va, tu vois. Mais quand même, j'ai toujours cette petite boule au ventre, même s'il me le fait pas du tout ressentir, où je me dis, il a quand même lâché toutes ses racines. Il a jamais vécu en Europe de toute sa vie. Ça va être tout un nouveau départ pour lui. Et je me dis, il l'a fait pour moi quand même. S'il n'y avait pas eu moi, il ne l'aurait pas fait.
Ou qu'il y ait une preuve d'amour quand même assez incroyable.
Oui, voilà. Donc,
et est-ce que tu as le sentiment, est-ce que vous en avez parlé de vous dire, là, le socle de notre couple, il est assez solide pour qu'on puisse se permettre ça? Ou est-ce que tu as toujours un truc de dire, ça se trouve, c'est pas aussi solide que ça et ça se trouve, ça va péter et dans 6 mois, en fait, vous allez vous séparer à cause de ça, quoi?
Y a toujours le doute. Je pense qu'il n'y a jamais ce truc. Peut-être qu'il y a ce truc un jour de vraiment, tu te sens à 100% solide. Moi, je trouve que c'est bien aussi le fait que t'es pas forcément toujours l'impression d'avoir le truc acquis où tu te dis, de toute façon, cette personne sera toujours là. Donc, évidemment, oui, il y a toujours ce truc où c'est possible. C'est totalement possible, hein. Ça se trouve, ça va être un fiasco. Je l'espère pas, je touche du bois. C'est du faux bois.
Non, c'est du vrai, c'est du vrai.
Okay,
non,
ouais, ça m'a coûté très cher. C'est du vrai bois, ok.
Non, mais en effet, je pense que puis vous auriez pas pris cette décision-là si vous saviez 2 mois que vous étiez ensemble et vous étiez clair. Dit, bon, c'est peut-être pas sérieux.
Donc on sait quand même qu'on va faire de. Tu vois, on n'est pas là en mode défaitiste, en mode de, oh, machin. On est à fond, on est hyper optimiste et tout, tout est positif, mais il y a aussi la possibilité. Et ça, c'est un truc qu'on sait. Et on en a parlé et on s'est dit, bon, on verra. On en parlera quand ça sera le moment d'en parler, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison. Mais du coup, ouais, écoute, je n'ai pas de conseils, chère personne, à te donner.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout quitter?
Il y a eu deux. J'ai vécu les deux dans les deux sens différents. Et ça dépend ce que tu quittes. Ça dépend ce que tu laisses. Si vraiment, au fond de toi, tu sens que tu es hyper heureuse et que tu as. Ah, je sais pas, j'en sais rien. C'est compliqué.
Non, mais je crois que c'est bien aussi ce que tu viens de dire, là, le au fond de toi, tu vois, c'est que souvent, on essaie de tout rationaliser, alors que souvent, notre instinct, il parle mieux que notre truc rationnel. Et surtout, l'instinct, il vient pas du tout du cerveau, tu vois. C'est qu'on est... alors là, pour le coup, c'est pas du tout scientifique ou chimique, ce que je dis. Mais en gros, tu sais, tout à l'heure, je disais, ton cerveau, il te ramène toujours à un truc sécurisant, de pas prendre de risques, etc., pour rester dans un truc que tu connais. L'instinct, j'ai l'impression qu'il fait pas du tout ça. L'instinct, il a toujours un truc de, ok, au fond de moi, tu sais, genre, symboliquement, il vient du cœur ou des tripes, tu vois. Il y a un truc de, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Et ça, je crois qu'au fond, nous, on le sait. On a malheureusement beaucoup appris à l'éteindre et à faire plutôt des tableaux pour, contre, et de voir s'il y a plus de pour, plus de contre,
c'est
etc.
C'est exactement ce que j'ai fait. Il y a alors 2 mois, j'étais là avec mon petit carnet, je faisais pour, contre. Ouais.
Alors que des fois, en fait, tu peux avoir toute une colonne dans les contre, et le pour, c'est putain, je crois que j'ai vraiment envie de le faire. Et ça veut dire que ça vaut n'importe quel contre factuel, tu vois.
C'est vrai.
Quand je me suis lancé sur YouTube, il y avait beaucoup plus de contre que de pour. J'avais un taf où j'étais très bien payé, j'avais ma maison, j'avais ma meuf, on était dans un petit lotissement cool, tous mes potes, j'avais un pouvoir d'achat qui était très bien pour Caen, ma famille qui était sur place, potentiellement je pouvais grave évoluer dans ma boîte et tout. Sauf que dans les pour, de me lancer sur ma chaîne YouTube, il y avait, je crois qu'au fond de moi, j'ai pas envie de ne pas tester quoi. Et dans ces cas-là, c'est plus fort que n'importe quel truc rationnel.
Voilà, écoute tes tripes, boum, c'est tout.
On aurait pu juste dire ça aurait été beaucoup plus court.
Bon, bah écoute, je crois qu'on arrive à la fin de nos petits...
Oh non.
Si, voilà.
C'est passé très vite.
Bah oui, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Je sais pas si ça fait 1 heure pour vous, à voir si on a coupé des choses nulles qu'on a dit. Mais voilà, j'espère que c'était cool, t'as kiffé ou pas?
J'ai trop kiffé.
C'est sûr.
Ouais, franchement, ça me fait du bien de... Je crois que je vais faire des podcasts purement audio.
Ouais.
Tu sais, là, c'est cool, je suis assis n'importe comment, je m'en branle.
Ouais, t'as vu, on peut être moche, on peut faire des grimaces, tu t'en fous,
Te fous. C'est chill. On s'est pas posé la question, on attend la lumière, le truc et tout.
Non, c'est génial.
Et non, ça fait du bien. Et c'est trop intéressant, je suis trop content qu'on se rencontre en vrai, parce qu'en fait, on s'est jamais rencontré en vrai.
C'est la première fois.
Et non, franchement, c'est très chill, très très cool.
Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de venir, d'être le premier mec.
Allez,
voilà.
Je suis un peu le parrain finalement de l'émission.
C'est ça. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à aller suivre Ben sur Insta si vous ne le connaissez pas. Ben Nevert, N-E-V-E-R-T.
Absolument, et pas N-E-V-E-R.
Ben Nevert, et puis moi évidemment, venez me suivre s'il vous plaît, des vibrations. Le Instagram du podcast c'est Sunshine Radio tiré du bas, parce que quelqu'un m'a pris le nom. Quelqu'un à Sunshine Radio.
On va envoyer les avocats.
Voilà. Oui. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast. Bisous !
Salut !
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.